Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, cet évangile de Saint Marc que nous venons d'entendre, évidemment sur le mariage, il nous faut l'entendre pas dans l'esprit dans lequel les pharisiens ont abordé le Christ, c'est-à-dire en commençant par poser des pièges. Nous, il nous faut, comme toujours dans l'Écriture, tenter de le recevoir, et c'est pas toujours si facile, de manière détachée et pure, où que nous en soyons de notre vie et de notre vocation. Alors je vous propose, je vais évidemment dire quelques mots sur le mariage, c'est d'une part de vous parler de l'institution du mariage, puis du célibat, bizarrement, et enfin du sacrement du mariage. Alors j'aime beaucoup à le faire à chaque fois que je célèbre un mariage, et c'est important, c'est de rappeler que le mariage c'est d'abord une institution naturelle. Naturel ne veut pas dire païen, naturel veut dire qui vient de la création, et la création vient de Dieu. Donc l'institution du mariage, c'est une chose divine, mais avant d'être un sacrement surnaturel, c'est d'abord une réalité naturelle. Il faut d'abord qu'il y ait les conditions essentielles de ce mariage que nous avons retrouvées dans la lecture de la Genèse. Vous le savez, il y a deux récits de la Genèse. Un, où l'homme et la femme sont créés en même temps, et l'autre, où l'homme et la femme sont créés successivement. Alors déjà, c'est important de savoir qu'il y a deux récits, donc il ne s'agit pas d'absolutiser une manière ou l'autre, parce que ce sont deux récits pour dire deux choses différentes. Le premier dit la profonde égalité de l'époux et de la femme, de l'époux et de l'épouse, et le deuxième dit l'unité, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et dans l'unité, j'ai vu que dans la traduction, maintenant, vous savez, on a changé il y a 2 ans nos traductions, et là, c'est une très heureuse traduction, à mon avis, parce qu'il y a un jeu de mots en hébreu qu'on ne peut pas comprendre. Quand on dit « alors il vit que c'était sa femme », alors il l'appela femme. Bon, c'est un peu court en français, c'est parce que lui, c'est Ish, et donc c'est Isha, c'est la même chose, mais en féminisé. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a tenu à le remettre, parce qu'en français, on n'arrive pas à le rendre. Bref, cette profonde unité de l'homme et de la femme, elle est nécessaire pour qu'un mariage puisse surgir. C'est ce qu'on appelle l'unité de toute la vie. Et puis, il y a des buts. C'est une institution que l'on n'aborde pas parce qu'on en a envie ou parce qu'on va voir ce qui va se passer. Vous le savez, quand on se marie, c'est qu'on se marie dans un but. Ce sont des fins que nous poursuivons quand on se marie. Et ces fins, c'est d'abord la procréation et l'éducation des enfants. Ce n'est pas pour limiter, c'est l'engendrement. Dans une famille, on s'unit pas pour s'enfermer, on s'unit pour s'ouvrir. On s'unit pour s'ouvrir à la vie qui vient. L'Évangile termine d'ailleurs sur l'accueil des petits-enfants. Je me dis parfois que on peut bêtifier assez facilement en disant « c'est très mignon, le Seigneur accueille les enfants ». Ce n'est pas si facile d'accueillir des enfants. Ce n'est pas si facile d'être ouvert, et c'est dans toute notre vie. Il y a bien sûr la génération, mais il y a aussi l'accueil perpétuel qui se fait et qui engendre la communauté, qui engendre une famille, qui engendre une paroisse, qui engendre un État. Bref, accueillir est toujours quelque chose de difficile. Aussi belle que soit l'image que le Seigneur prend d'accueillir des petits-enfants, de leur poser la main sur la tête et de les embrasser. Voilà cette fin première du mariage, pouvoir accueillir la vie. Et puis, il y a ce qu'on appelle le bien des époux, c'est qui se traduit dans l'unité, la fidélité et l'indissolubilité. C'est cette unité profonde qui est voulue par le Créateur dès le commencement du monde, c'est ce que le Seigneur essaye d'expliquer à ses contradicteurs, qui n'est pas facile à tenir. Les chrétiens ne sont pas au-dessus des réalités de ce monde, et il nous faut soutenir l'union des chrétiens, leur unité. Notre Saint-Père le Pape vient justement de faire une communication en disant c'est très bien, c'est bien de préparer les gens au mariage, je l'ai transmis à ceux qui s'occupent du mariage d'ailleurs, mais il faudrait aussi soutenir les époux, c'est-à-dire sans cesse leur donner une aide nécessaire pour qu'ils puissent continuer de vivre de l'engagement qui est le leur. Je vous conseille d'ailleurs, en passant, régulièrement de renouveler les promesses de votre mariage. Les prêtres le font tous les ans, au moment du Jeudi Saint, eh bien, il me semblerait bon que des époux puissent se redire leur volonté d'être unis. La fidélité, qui n'est pas une vertu négative, mais qui est une vertu très active de tous les jours, la fidélité, c'est la pensée, c'est de se tourner sans cesse vers l'autre, c'est la vertu peut-être fondamentale dans le mariage, qui permet sans cesse d'être tourné, de penser l'un à l'autre. Enfin, l'indissolubilité, c'est en quelque sorte le cachet du véritable amour, comme le disent les enfants, donner c'est donner. Et nous sommes invités dans le mariage à s'abandonner, ce qui n'est pas facile. Je me souviens que j'étais encore en droit à l'époque, il y avait une tentative, c'était en Allemagne, sachant qu'il y a beaucoup de divorces, eh bien, il y en a qui s'étaient dit « on va faire un mariage en CDD ». Alors on va proposer un mariage à 5 ans, ce qui est déjà très sympathique. Hein. Et alors on va proposer un mariage à 5 ans, puis si ça marche, eh ben on le renouvellera. C'était plein d'une bonne volonté, à mon avis. Hein. C'était pour essayer de se dire « n'ayez pas peur, vous n'en prenez que pour 5 ans ». Mais le problème, c'est que le don total qui est requis dans le mariage, le don de l'un à l'autre, l'abandon, c'est s'abandonner dans les bras l'un de l'autre, ça suppose de ne pas se conserver, de ne pas se garder et donc de ne pas se ménager une porte de sortie, sans quoi on est condamné à ne pas vivre la réalité de ce mariage. Voilà pour le fondement naturel du mariage qui vaut pour tout le monde et pas seulement pour les chrétiens. Et vous le savez d'ailleurs, nous autres chrétiens, quand nous rencontrons des gens qui ne le sont pas, mais qui vivent ces vertus du mariage, nous les estimons mariés vraiment, et même, d'une certaine manière, même s'il n'y a pas de sacrement, devant Dieu. Alors pourquoi évoquer le célibat ? Pour deux raisons. Dans un deuxième temps, pour deux raisons, puisque, d'après ce que je viens d'évoquer, il semble que le mariage soit la voie naturelle, et je le pense, c'est la vocation naturelle de tous. Mais voilà, il peut se faire que nous soyons célibataires. D'abord, il peut se faire que nous soyons célibataires pour une raison que l'on n'a pas choisie. Je pense, évidemment, aux gens qui se sont quittés les uns les autres, ou aux veufs et aux veuves. Eh bien, ce sont des situations différentes dans lesquelles on est invité quand même à vivre du don qu'on a vécu, ou à vivre du don que l'on est invité à faire autrement dans l'Église, dans sa famille. J'ai eu cette grâce longtemps avec une grand-tante qui était célibataire, qui n'avait pas pu ou voulu se marier, c'était une question qu'on n'osait pas lui poser, et elle a été une grâce incroyable pour notre famille, car c'était une femme d'une grande culture, d'une grande ouverture d'esprit, et je pense que beaucoup d'entre nous lui doivent certainement leur culture grecque et latine, lui doivent beaucoup. Elle avait décidé de se donner dans sa famille et dans des engagements politiques, et c'était sa manière de se donner. Pour les veufs ou les veuves, évidemment, ne se finit pas avec la mort le mariage. Je m'explique. Oui, juridiquement, je le sais, nous ne sommes plus mariés une fois qu'on est veuf ou qu'on est veuve. Cela ne veut pas dire que l'on ne vit pas pour toujours, d'abord dans ce monde, de la fidélité qui vous a lié à quelqu'un pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et j'ai un ami qui est veuf depuis déjà un certain temps, et me disait-il, il est très pieux, il est très religieux, alors on l'a approché en lui disant, mais est-ce que tu ne voudrais pas être prêtre, parce que tu es très religieux, tu pourrais servir à l'Église. Il a dit non, ce n'est pas que je méprise ce beau sacrement, mais voilà, moi, j'ai vécu du sacrement du mariage. Bien sûr, je ne peux plus communiquer, je ne peux plus ici-bas être uni avec mon épouse, mais je vis encore de ce mariage, de ce sacrement que j'ai reçu, qui m'a uni à Dieu d'une manière particulière. Alors, il sert l'Église, car il enseigne dans les facultés catholiques, mais il le fait dans son état de veuf. Enfin, pour ce qui est des célibataires, vous le savez, il y a ceux qui ont choisi cet état, je pense aux religieux, aux religieuses ou aux prêtres. Si nous avons choisi cet état, choisi, n'est-ce pas, pourvu qu'on ne revienne pas comme au temps de la Révolution, à penser que c'est un empêchement à la liberté, aujourd'hui on ne penserait pas comme ça, on dirait que c'est un dérèglement psychiatrique. Je ne voudrais pas vous effrayer, mais si vous lisez les journaux, eh bien, le lien qui est immédiatement fait entre les dérèglements sexuels et le célibat semble une évidence pour tout le monde, en oubliant tout simplement que 94% de ces dérèglements, je ne veux pas les citer, eh bien, sont le fait d'hommes, en général, mariés dans le cercle de famille. Alors, il n'y a pas longtemps, comme les gens peuvent être parfois grossiers, quelqu'un me met la main sur l'épaule en disant « Alors, vous êtes, c'est pas pervers ?» Et je lui dis « Ah, mais vous avez des enfants ?»« Oui, alors, ben, voilà les chiffres. Alors, je suis très inquiet. Est-ce que vous-même, vous êtes pervers avec vos enfants ?» Eh bien, non. La perversité, malheureusement, elle est de tous les temps, elle est de toutes les époques, elle est de tous les gens. Et malheureusement, elle n'épargne pas les prêtres non plus. Mais soyez certains que le don du célibat est un don que l'Église s'est faite à elle-même en imitation au Christ. C'est un don ineffable qu'il vous faut soutenir, un don non naturel. C'est-à-dire que, c'est pour ça que ça dure 7 ans le séminaire, hein. Il nous faut au moins tout ce temps pour savoir si on est capable, si on se sent capable de se donner vraiment dans une union mystique avec l'Église. C'est vous qui me donnez véritablement mon union, ce sont les personnes de la paroisse, les paroissiens, qu'ils soient célibataires ou mariés, qui donnent aux prêtres. Bien sûr, c'est l'évêque qui me donne ma place juridique, c'est lui qui m'a donné ma mission, c'est lui qui fait que je suis curé ici, mais c'est vous qui me donnez de vivre mon célibat apostolique, c'est-à-dire c'est la place que vous me donnez dans votre cœur, dans votre famille, dans vos activités, qui fait que je suis vraiment un prêtre de Jésus-Christ. Il est facile de voir ce qui tombe, il est plus difficile de voir ce que l'on doit faire pour se soutenir les uns les autres et que nous puissions tous vivre pleinement heureux. Ce petit détour pour terminer par le sacrement du mariage. Je dis bien le sacrement, c'est-à-dire une chose divine et sacrée. Le mariage n'est pas un pis-aller, parce que là c'est l'autre conception peut-être un peu ancienne, qui pensait que si vraiment on aime Dieu, si vraiment on est très pieux, si vraiment on a des qualités, alors on va être religieux ou prêtre, évidemment. Et puis si jamais on est un petit peu en dessous, alors on va se marier et on va faire un chrétien de seconde zone. Je ne pense pas que ça soit aujourd'hui ce qui court le plus, mais on ne sait jamais. Ce n'est pas le cas. Le sacrement du mariage est un vrai sacrement. Je dis ça parce qu'il y avait un grand prédicateur de la fin du 19e, mais je n'arrive pas à retrouver son nom, un dominicain très connu qui prêchait à Notre-Dame les carêmes, et puis qui avait un ami qu'il estimait beaucoup et qu'il voyait très bien dominicain, évidemment, puisqu'il était brillant, intelligent, plein de qualités. Et alors, il était tellement exaspéré de voir que cet ami s'était marié qu'il disait un petit peu partout qu'il s'était fait avoir, quoi. Voilà. Et par la première qui avait de beaux yeux. Et puis, ce prédicateur très connu et très brillant est reçu par le pape. C'était le pape Pie IX en audience. Et alors, à l'époque, c'est très cérémonieux, on avance, on s'agenouille, on baise la main du pape. Et quand celui-ci, ce grand prédicateur connu dans toute la France, se relève, le pape lui dit « Qu'est-ce que j'apprends, mon révérend père? Vous n'avez pas appris bien votre catéchisme. Vous pensez qu'il y a 6 sacrements et un piège ? Mais on m'a appris qu'il y avait 7 sacrements. » Cette petite pointe d'humour pour dire que c'est vraiment un chemin divin, c'est-à-dire une action qui se conjoint à celle de Dieu pour nous faire trouver le paradis. Le but du mariage, le but ultime, c'est l'union divine, c'est de vivre avec Dieu et à travers la nature qui nous est donnée, de se conjoindre à Dieu. C'est le mot « conjoint » dans lequel on reconnaît le Christ. La belle préface du mariage le dit, vous devenez dans le mariage la figure du Christ l'un pour l'autre. Je le dis à tous les mariages que je célèbre, il ne sera pas donné aux époux un visage plus probant, plus évident et plus net de Jésus-Christ que celui de son conjoint. L'époux et l'épouse deviennent l'un pour l'autre le vrai visage du Christ. En ce sens, ce sont les époux qui deviennent le sacrement, et c'est pour ça que c'est eux qui l'échangent, ce sacrement, que ce n'est pas le prêtre qui donne le sacrement du mariage, le prêtre béni, mais c'est vous-même qui vous donnez dans le mariage ce sacrement. Cette union, ce chemin vers le ciel, est une réalité établie par Dieu pour que plus sûrement vous puissiez arriver à lui. Priez, mes bien chers frères, pour que chacun dans nos vocations, que nous soyons célibataires, que nous soyons veufs ou veuves, que nous soyons religieux, religieuses, prêtres ou mariés, prions les uns pour les autres pour que nous nous soutenions par la prière dans ce bel engagement qui nous mène à Dieu. Amen.